En fait, le rapport, il a une conclusion qui est vraiment très claire. C'est que met en évidence l'urgence et le fait de mettre en priorité une action ambitieuse, coordonnée et tenace, c'est-à-dire sur le temps long, pour faire face à des changements sans précédent dans l'océan et dans la cryosphère, dans ce climat qui change.
Donc, l'océan et la cryosphère, les parties gelées de la planète jouent un rôle crucial pour la vie sur Terre. Mais pour les néophytes qui ne maîtrisent pas bien les conséquences d'un réchauffement climatique sur ces deux aspects de la vie, vous leur dites quoi ?
Alors en fait, les océans, en se réchauffant, ils absorbent une grande partie du réchauffement qui est causé par nos rejets de gaz à effet de serre. Ils changent les conditions de vie pour ce qui vit dans les océans. Et puis, en absorbant du dioxyde de carbone, une partie de nos émissions, leur chimie change. Et quand en fait les océans se réchauffent, ça change le mélange des eaux de mer, la quantité d'oxygène ou de nutriments disponibles. Et donc, il y a des enjeux qui sont majeurs dans les océans sur leur capacité à produire la vie, finalement. Donc, il y a des enjeux qui sont extrêmement importants sur les distributions des populations de poissons, avec des enjeux sur les pêcheries, pour la sécurité alimentaire de ceux qui dépendent de la pêche pour avoir suffisamment de protéines. Donc, des enjeux de sécurité nutritionnelle et de sécurité alimentaire. C'est aussi le cas pour les récifs de coraux. Beaucoup de personnes dépendent en fait des récifs de coraux qui offrent une protection côtière, qui abritent beaucoup de formes de vie, sont donc une source économique importante pour la pêche, mais aussi pour le tourisme. Et on voit déjà des blanchiments de coraux dans un climat qui se réchauffe. Et on s'attend à des effets majeurs pour la plupart des récifs de coraux tropicaux, donc une dégradation très sévère à cause de vagues de chaleur dans les océans plus intenses et plus fréquentes. Et puis enfin, on a presque 700 millions de personnes qui vivent sur les côtes. Ce sera 1 milliard de personnes d'ici à 2050. Et les enjeux à la fois de la fonte des glaces des continents et du réchauffement des océans, c'est la montée du niveau des mers. La montée du niveau des mers, elle a accéléré. Elle se fait à un rythme beaucoup plus important maintenant au XXe siècle. Elle va se poursuivre, cette montée du niveau des mers, sur des échelles de temps de dizaines, centaines d'années. Et donc, on a aussi un message important qui est pour toutes les communautés qui vivent sur les côtes d'anticiper, de prendre en compte cette montée du niveau des mers, à la fois la tendance lente, mais aussi le fait que beaucoup plus souvent, on va atteindre des niveaux extrêmes lorsqu'on a des tempêtes. Et les événements de très haut niveau marin qui se produisaient une fois tous les 100 ans dans le passé, ce niveau-là sera atteint quasiment tous les ans en 2050 dans beaucoup de régions du monde. Donc, notre message, c'est vraiment de fournir à l'ensemble de la société cette information scientifique, solide, rigoureuse, pour aider chaque communauté à prendre des décisions en utilisant le savoir scientifique, mais aussi tous les savoirs locaux. Il y a beaucoup de savoirs locaux et autochtones qui sont essentiels pour l'adaptation aux changements dans les océans, dans les écosystèmes marins, sur les côtes, liés à ce qui se passe dans les océans et dans la cryosphère partout.
Mais quand le rapport dit que c'est des événements extrêmes du niveau de la mer plus fréquents, qu'est-ce que cela signifie pour notre quotidien, nous humains ?
Ça veut dire des risques d'inondations côtières importants, donc la nécessité de mettre en place des mesures maintenant pour gérer ce risque-là. Et donc il y a un ensemble de mesures possibles. Par exemple, pour les grandes villes, le fait de renforcer les ouvrages de protection, les digues, ça peut être aussi de protéger, de restaurer les écosystèmes côtiers, les zones humides et les coraux qui jouent un rôle de protection côtière. Dans certains cas, ça peut aussi impliquer le fait de décider de déménager certaines zones, certaines infrastructures, certaines communautés quand il y a la possibilité de le faire. Ça n'est pas le cas partout. Il y a aussi tout le côté qui porte sur les systèmes d'alerte précoce, le fait d'avoir des bâtiments qui peuvent résister lorsqu'on a des inondations côtières pour pouvoir réduire le risque.
La haute mer, l'Arctique, l'Antarctique et les hautes montagnes peuvent sembler bien lointaines à bien des gens, mais quelles conséquences pour ces populations, mais aussi pour le reste de la planète ?
Alors, les changements, ils sont très importants aussi bien en Arctique que dans les régions de haute montagne. Donc, en Arctique, il y a un recul important de la glace de mer qui va se poursuivre, mais très différent selon ce qu'on va faire sur les émissions de gaz à effet de serre. Les gens qui vivent dans l'Arctique, en particulier les peuples autochtones, ont déjà modifié leur mode de vie et leurs pratiques, leur manière, par exemple, de pêcher, de chasser, de se déplacer, en fonction de la sécurité des conditions sur les terres et dans les océans, le couvert de neige, le couvert de glace, l'évolution des sols gelés. Et quelques communautés ont déjà prévu de déménager. Et ça montre à quel point cette adaptation, elle dépend aussi des ressources et du soutien institutionnel. Dans les régions de montagne, les changements, ils sont aussi très visibles. Il y a à la fois le recul des glaciers, mais aussi les sols gelés qui conduisent à des modifications d'avalanches, d'éboulements, et aussi des risques d'inondations qui changent avec des petits lacs qui se forment lorsque les glaciers fondent et qui peuvent poser des risques pour les communautés locales. Mais ce n'est pas simplement des effets locaux dans les régions de montagne, parce qu'en fait, le recul de la neige, de la glace, ça affecte aussi la qualité de l'eau et sa disponibilité en amont. Dans beaucoup de régions, pendant les saisons sèches, l'alimentation des cours d'eau en eau dépend de la fonte de la neige et de la cryosphère. Donc il y a des implications importante, par exemple, pour la production d'hydroélectricité ou pour l'agriculture. Et ça concerne une partie très très grande de la population mondiale.
Le GIEC parle de preuves accablantes et que cela entraîne des conséquences profondes pour les écosystèmes et les populations. Mais la seule question aujourd'hui, pour cette jeune fille du Népal ou bien ce jeune garçon dans une région désertique du Tchad, que faire ?
Le message le plus important, c'est de demander qu'il y ait des discussions, des délibérations dans chaque communauté, en prenant en compte les changements qui ont déjà eu lieu, les changements qui sont attendus. Donc c'est bien de définir par les connaissances scientifiques les tendances attendues dans les prochaines décennies, c'est-à-dire au cours de la vie de ces jeunes gens, et qu'il y ait des délibérations, qu'il y ait des discussions, qu'il y ait un mécanisme dans chaque communauté pour s'approprier cet enjeu-là et réfléchir ensemble à ce qu'ils veulent faire pour ce qu'ils veulent transmettre aux plus jeunes. Partout, en fait, les gens sont attachés au milieu naturel, ils sont attachés à des modes de vie, à des cultures, et il y a cet impératif de transformation, de mettre en place une action coordonnée, ambitieuse, et qui va être tenace parce que les changements vont se poursuivre. Et ça demande aussi beaucoup de coopération, de retour d'expérience. Peut-être le point le plus important, c'est que ceux qui sont les moins responsables de ces changements climatiques sont parfois les plus vulnérables. Et donc, ce qui est aussi important, c'est la coopération internationale, au-delà des frontières, pour permettre de vraiment avoir un développement qui soit soutenable.
Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter au sujet de ce rapport ?
Moi, j'aime bien souligner le fait que pour la première fois, on met en évidence dans ce rapport l'importance de l'éducation. C'est la première fois qu'on en parle. Faire en sorte justement qu'on puisse permettre à tous de s'approprier ces enjeux, ces connaissances sur les océans, la cryosphère, comprendre à quel point on dépend d'eux, même si on ne vit pas à côté d'eux, par rapport à l'évolution globale du climat, par rapport aux écosystèmes dont nous dépendons.